Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Dans notre travail sur le péché originel, je me dis, quand on pense péché originel, il y a des noms qui viennent comme ça. Le nom de Saint Augustin vient forcément. Saint Augustin qui a joué un rôle important dans le baptême des petits-enfants, l'illumination, comme on l'appelait à ce moment-là, là où d'autres ont pu être assez critiques sur l'idée de baptiser les petits-enfants, là où on pouvait imaginer qu'il y avait une vision très négative de l'homme, et la peur surtout, la peur de ce que le péché allait produire. Mais il y a aussi le nom de Pélage qui est en face, finalement, de Saint-Augustin. Ce serait peut-être intéressant, parce que spirituellement, aujourd'hui, le Pélage et le pélagianisme peuvent jouer un rôle important. La façon dont on pense qu'en allant beaucoup plus loin dans certaines disciplines qu'on va s'imposer, on va se situer dans le groupe des sauvés, si je puis dire.
Oui, Pélage était un moine venu des îles anglo-saxonnes, un moine ascétique qui a eu un moment une aura considérable à Rome même, puisque le pape de l'époque a été séduit par cet homme qui parlait bien, qui était ascète au possible et qui donnait une impression de maîtriser totalement la connaissance de la Bible, de l'Ancien, du Nouveau Testament, et qui donnait un discours fort dans une période qui semblait plus facile, puisque, grosso modo, le temps des persécutions avait fini. Je rappelle que saint Augustin donc meurt en 430, donc il est longtemps après la fin des persécutions, en tout cas en Occident, en 313 avec Constantin, et qu'il y avait un petit affaiblissement inévitable dans cette situation, disons, plus facile, d'un affaissement dans les conditions matérielles plus faciles. Et donc les chrétiens paraissaient un peu fragiles de ce point de vue-là, prenant plus de bon temps, participant plus aux réalités temporelles d'une manière plus intéressée, et cela donnait une vision des chrétiens qui était moins parfaite. Et Pélage, d'une certaine manière, a voulu redresser la barre et donner le sentiment de chrétiens plus capables de se maîtriser, de maîtriser leur corps, de maîtriser leur vie, et ainsi de trouver une doctrine qui allait en même temps satisfaire les grandes traditions romaines qui étaient encore inscrites beaucoup dans les antiquités que l'on recevait dans l'école, quand on suivait les cours de formation de rhéteur, par exemple, on avait des cours sur le stoïcisme, eh bien, on voyait que les grands stoïciens avaient une rigueur très forte. Et donc, retrouver cette rigueur pouvait donner au christianisme un élan peut-être nouveau, alors qu'il y avait peut-être une petite période d'affaissement dans la facilité. Et Pélage donc a proposé cela. Le problème, c'est que sa doctrine était radicalement fausse. Il prétendait que l'on pouvait, par ses propres forces, atteindre le salut, que la grâce, les sacrements étaient facultatifs, c'est-à-dire que ça venait en plus au cas où il y a eu une nécessité de les avoir, mais en soi, l'homme était capable de se maîtriser par ses propres forces, qu'il n'avait pas une absolue nécessité ni du baptême, et donc du coup, le baptême des petits-enfants ne s'imposait pas, évidemment, ni des autres sacrements, et qu'on n'avait pas besoin de l'Eucharistie, qu'on n'avait pas besoin d'être aidé par des prêtres, qu'on n'avait pas besoin du mariage. On pouvait très bien, du mariage chrétien, on pouvait très bien y arriver tout seul. Et cette tentation donc a séduit le pape de l'époque, et il a fallu que saint Augustin sonne le tocsin d'une certaine manière et dise « attention, il y a une grosse erreur ». Il s'en était déjà aperçu en luttant contre le donatisme. Le donatisme, c'était une église schismatique d'Afrique du Nord qui avait des propos non pas identiques à Pélage, mais qui déjà faisaient de leur bloc une sorte d'église de parfait, puisque pendant les persécutions, il y avait eu malheureusement des chrétiens qui avaient chuté, on les appelait les lapsis. Ils refusaient de les réintégrer après les persécutions. Et les donatistes donc disaient, les chefs sont parfaits. Et saint Augustin disant en riant, mais comment est-ce possible, puisque saint Jean lui-même dit dans sa première épître que celui qui déclarait ne pas être pécheur est un menteur. Et donc il a beaucoup utilisé ce verset de 1 Jean 2 dans la première épître de saint Jean pour lutter contre ce courant donatiste. Donc il a déjà fait ses armes d'une certaine manière contre cette tentation d'une auto-perfection. Et il a découvert que dans le pélagianisme, même si la doctrine était très différente par rapport aux donatistes qui se constituaient en église fermée, schismatique, le pélagianisme voulait être une doctrine universelle, mais qui ne nécessitait plus ni les charismes, ni la hiérarchie, ni les sacrements. Et d'une certaine manière, il a vu une tentation un peu similaire. Il a réutilisé les mêmes arguments en montrant que c'est tout à fait contraire à l'esprit de saint Jean, qui à la fois dit, c'est vrai qu'on n'est plus pécheur quand on est fidèle à la grâce, mais dans la mesure où l'on est fidèle à la grâce. Car quelqu'un qui n'est pas fidèle à la grâce, comment pourrait-il s'en tirer? Et d'une certaine manière, la première épître de Jean donc dit, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. 1 Jean, donc je disais 2, mais c'est chapitre 1 verset 8, et c'est cet argument là que n'a cessé de répéter saint Augustin, comme il l'avait fait vis-à-vis des donatistes, contre Pélage. Et finalement, c'est la voix de saint Augustin qui l'a emporté, puisque au concile d'Éphèse, donc un an après la mort de saint Augustin, le concile d'Éphèse a condamné Pélage. Pélage qui avait été refoué de Rome, parce que les papes avaient compris leur première erreur. Les papes sont faillibles dans les choses les plus ordinaires. Ils sont infaillibles uniquement quand il y a des dogmes et des définitions que le Saint-Esprit vient leur souffler. Mais sinon, c'est des hommes faillibles, hein, comme tout chrétien. Et donc, ils ont compris là qu'il y avait eu un faux pas. Ils ont redressé la barre, ils ont expulsé Pélage. Et Pélage était arrivé à se réfugier en Méditerranée, vers le Liban actuel, vers la côte syrienne, entre la Syrie et le Liban, par là, et il a eu une influence là-bas. Et là-bas, on s'est aperçu que sa doctrine était tout à fait fausse. Et donc, il a été condamné au concile d'Éphèse, et c'est en 431 que cette condamnation a eu lieu.
Ah oui, oui. Et du coup, par rapport au péché originel, le catéchisme le souligne, ça veut dire qu'il réduisait l'influence de la faute d'Adam à celle d'un mauvais exemple.
Oui, c'est ça, exactement. On avait fini par croire, si vous voulez, que voilà, il y avait des gens qui étaient fragilisés par le mauvais exemple et qui suffisait, dans le fond, de restaurer les choses en faisant du bon exemple, un peu à la militaire, si vous voulez. Il y a de mauvais éléments, qu'est-ce qu'on fait? On redresse les choses par la discipline, et dans le fond, c'est un volontarisme excessif, le pélagianisme.
Ah oui.
C'est ça, et c'est pour cela qu'il faut faire très attention dans les groupes qui se constituent, de faire attention à cet aspect de volontarisme. Le but n'est pas faire bien sûr des chiquemolles, il faut que les volontés soient fortes, mais faire attention que ça ne devienne pas un volontarisme autosuffisant.
Eh oui. Ces histoires-là, d'une certaine façon, ont eu des répercussions dans notre histoire, l'histoire de notre Église en Europe et en France en particulier. Donc il y a eu toute la question de la réforme de Luther, et puis il y a eu le jansénisme par ailleurs.
Alors le jansénisme, c'est vrai, est d'une certaine manière une réintroduction de certaines thèses de la réformation avec un sentiment catholique de dire qu'on peut... malgré la situation dans laquelle nous sommes, continuer à plaider notre situation pécheresse en étant plus scrupuleux, en faisant des multiples confessions, en multipliant les actes de réparation, qu'on peut y arriver en... défendant notre misère, dans le fond, et sans se donner trop de considération par rapport à ce que notre nature peut faire. Donc une sorte de pessimisme qui s'est introduit dans le catholicisme par un effet retour, un effet feedback par rapport aux propos de la Réformation. La Réformation avait méprisé le libre arbitre, vous vous souvenez de la thèse de Luther, le self arbitre, il avait écrit ça contre Erasme, qui avait écrit un magnifique livre sur défendant la liberté de l'homme, le libre arbitre, et Luther avait donc pourfendu le texte d'Erasme en déclarant que nous étions tous des esclaves du péché, puisque nous commettons des péchés, et que c'était inévitable qu'on soit des pécheurs. Et contre ce courant du jansénisme, heureusement, nous avons eu le grand Bossuet, nous avons eu des grands défenseurs de la vérité catholique, et les papes de l'époque ont vu clair. La lumière est venue de Rome, comme bien souvent.
Merci beaucoup.